Et ce sujet, c'est la grâce. J'aime bien, je suis vraiment content parce que J.L. a commencé ce culte en nous parlant de la grâce. Le fait qu'on était tous ici par la grâce de Dieu. Quelque chose qui ne vient pas de nous, c'est quelque chose qui vient de lui. Et pour le contexte, donc je vais prêcher sur un texte de Romains. Et juste vous délivrer un peu le contexte dans lequel a été écrit cette épître. Donc il faut savoir que l'église de Rome n'a pas été fondée par Paul. D'accord? Lors de la rédaction de cette épître, l'apôtre Paul, lui, est à Corinthe. Et il a vraiment une vision de l'évangélisation du pourtour méditerranéen. Donc il a vraiment à cœur d'aller particulièrement apporter l'évangile en Espagne et en Gaule. Et en fait, il se dit que l'église de Rome serait idéalement positionnée pour pouvoir être une base de soutien pour lui, pour cette évangélisation. Il se trouve qu'aussi, il y a un double objectif sur cette épître, sur cette lettre, puisqu'il a envie de contrer une doctrine qui était grandissante, notamment parmi les chrétiens d'origine juive, qu'on appelait les judaïsants, et qui affirmait que le chrétien devait absolument se conformer à des rites d'origine juive, des traditions juives, pour pouvoir accéder au salut. Et son but à lui, c'était vraiment de pouvoir expliquer quel était l'évangile, son évangile, de pouvoir veiller à ce qu'il y ait une base commune, de pouvoir poser les fondations d'une action commune avec l'Église de Rome, en parlant réellement de ce qu'est la doctrine, en expliquant tout l'évangile. Et en fait, si on regarde bien la lettre aux Romains, on se rend compte que c'est magnifique parce que ça reprend l'évangile de façon absolument admirable. Et donc on voit Paul qui explique cette doctrine. Souvent il parle de mon évangile, il parle de cette doctrine qui est la sienne, et on pourrait se dire, mais très orgueilleux de dire ça, mon évangile. Et en fait, il pose simplement les fondations de ce que lui sait être l'évangile. Et donc, il est important de pouvoir lire cette lettre aux Romains au travers de ce spectre d'une personne qui est en train d'expliquer les choses. Et il parle aussi avec autorité. On pourrait être étonné de voir quelqu'un qui parle avec autorité d'une église qu'il n'a pas fondée. On pourrait se dire, mais il n'est pas vraiment légitime. Et en fait, il connaît bien des personnes de l'église de Rome. Il connaît notamment Priscille et Aquilas, avec qui il a travaillé en Asie mineure. Et on voit à la fin de la lettre qu'il salue nominativement plus de 25 personnes. Donc c'était pas un inconnu. C'est quelqu'un qui vient dans une église dans laquelle, on pourrait dire, il se sent presque chez lui. Il connaît du monde. Et il a la légitimité pour pouvoir dire ce qu'il a à dire. Et donc, Paul vient, dans les chapitres précédents de celui que nous allons lire, il vient de dresser le constat sur l'état de l'humanité et sur la nécessité du salut qui s'obtient par la foi. En exposant la doctrine, Paul utilise fréquemment une formule qui sert à rejeter de façon vive une mauvaise compréhension de ce qu'il dit. Cette formule, c'est « loin de là ». Il pose une question rhétorique, et pour éviter une mauvaise compréhension, il utilise ce terme « loin de là ». Et ce matin, nous allons parler de ce thème. « Allons-nous pécher, puisque nous sommes sous la grâce, loin de là ?» C'est apparemment une question que certains chrétiens se posaient, et c'est pour ça que Paul veut y répondre. Il veut tuer une mauvaise idée dans l'œuf. On a parlé du double objectif de cette lettre. La doctrine, répandue par certains juifs quant au rite qu'il fallait suivre, cela nous amène à une forme de salut par les œuvres. C'est un peu l'idée de la carotte et du bâton. Et c'est une idée contre laquelle Paul luttait. Cette grâce, lorsqu'elle est acceptée à notre conversion, doit nous faire réfléchir à l'attitude que nous avons à adopter vis-à-vis d'elle. Qu'est-ce que cela engendre chez nous? Comment est-ce que nous la comprenons? Je propose de maintenant de passer à l'essentiel, le cœur de ce message, c'est-à-dire le texte. Nous allons lire ensemble, si vous le voulez bien, Romains chapitre 5, verset 17, à Romains chapitre 6, verset 18. Je vous laisse le temps de le prendre dans vos bibles pour ceux qui en ont une. Donc Romains chapitre 5, verset 17 à Romains 6, verset 18. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, de même que par une seule faute la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Que dirons-nous donc ? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ? Loin de là. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ, ressuscité, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi mais sous la grâce. Quoi donc ? Allons-nous pécher puisque nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce ? Loin de là. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais que Dieu soit remercié. Alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Dans ce passage, on peut voir qu'il y a deux fausses raisons de croire que l'on peut pécher librement. Et ces deux fausses raisons, Paul les combat ardemment. Premièrement, on pourrait penser qu'on peut pécher pour ou parce que la grâce abonde. Et deuxièmement, on pourrait penser que l'on peut pécher parce qu'on n'est plus sous la loi. Pécherions-nous afin que la grâce abonde ? À cette question, Paul répond loin de là. Peut-être que ça peut nous sembler évident de répondre ça. Quand on nous le dit, on dit « non, on ne va pas le faire consciemment ». Nous pouvons voir que cette affirmation peut être beaucoup plus insidieuse et peut nous amener vers un comportement qui est contraire à la parole. Nous devons lutter contre le péché. En effet, à la suite de la lecture du chapitre 5, on voit que par un homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Et par un seul Jésus-Christ, la justification s'étend à tous les hommes. Alors vient ce verset. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Peut-être que pour certains, la question peut se poser, pourquoi ne pas persister dans le péché ? Ainsi, la grâce continuera à abonder. Cette question peut nous sembler très simple, mais elle est en fait d'une importance capitale pour notre vie chrétienne. Bien la comprendre est fondamentale pour notre marche avec Christ, et elle va plus loin que simplement une réponse oui ou non. On imagine aisément une petite main timide qui pourrait se lever, qui dirait « Moi j'ai une question. Si notre salut dépend d'un seul homme, Christ, et que c'est un don gratuit de Dieu, qui s'acquiert par la foi seul, et que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, bah alors je peux vivre ma vie comme je l'entends. » Loin de là. L'idée défendue que ce serait que comme c'est Dieu qui est à l'origine de notre salut, alors quoi qu'on fasse, cela ne changera rien. Paul montre que ce raisonnement ne peut pas tenir si on saisit pleinement le sens de la grâce de Dieu pour nous. Il expose clairement ses arguments. Par la mort de Christ, nous sommes morts au péché. Le péché ne nous condamne plus. Paul, d'une seule phrase, rejette énergiquement l'idée que nous pouvons impunément continuer de pécher. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre dans le péché ? Le péché ne nous condamne plus car Jésus-Christ a payé le prix pour nous à la croix. C'est une vérité. Mais comment pourrions-nous alors nous dire que le péché n'est pas si grave ou qu'il est insignifiant ? C'est à cause de cela que Jésus est mort. C'est à cause du péché que Jésus est mort. On ne peut pas considérer qu'il n'est pas grave ou pas important. Le péché est la raison pour laquelle Dieu a dû sacrifier son propre Fils. Il y a là un rappel capital. Le péché n'est pas anodin. Ce n'est pas juste quelque chose dans la vie du chrétien qui est sans importance et avec lequel nous devons apprendre à vivre. Il faut vraiment veiller à ce que la grâce de Dieu ne devienne pas pour nous un permis d'immoralité. Accepter que parce que nous ne sommes pas encore régénérés, tel qu'on le sera après le retour de Christ, alors nous pouvons continuer à pécher sans que cela soit grave, c'est une idée qui est fausse. Dieu nous appelle à être un peuple saint. Et ce, depuis l'Ancien Testament. Vous serez saints, car je suis saint. Si la Bible nous parle de sanctification, qui est l'un des buts de la vie chrétienne, c'est parce que suite à notre salut, notre comportement doit absolument changer. On ne construit pas une chaise pour la laisser dans la forêt, avec les arbres duquel elle est venue, mais on la construit pour pouvoir la mettre dans un salon, pour qu'elle puisse être utile. Dieu nous a sauvés pour qu'on puisse aussi servir son plan sur cette terre. Quel programme ? Quel programme ? L'idée que nous puissions, par la grâce de Dieu, lui être utile. Mais comment faire ? Par nous-mêmes, c'est impossible. La tâche est beaucoup trop importante, et le changement beaucoup trop grand pour que nous le fassions par nous-mêmes. C'est pour cela que c'est Dieu qui nous change. Mais Paul ne s'arrête pas là. Il nous dit aussi, nous sommes baptisés en Jésus-Christ. C'est en sa mort que nous avons été baptisés, donc ensevelis avec lui. Et par sa résurrection, nous sommes appelés à vivre une vie nouvelle. Paul commence en disant, ignorez-vous que. Paul résume la pensée que, par la grâce, on peut se laisser aller au péché, ce serait de l'ignorance. Au verset 4 et 5, on voit que Paul explique cette expression du baptême en Jésus-Christ. Nous sommes unis à lui. Si nous sommes unis à lui, alors cela influe directement sur notre vision du péché dans notre vie. Si notre ancienne nature est morte avec le Christ, alors l'homme pécheur que nous étions est considéré comme mort par Dieu. Le jour du jugement, ce n'est plus celui que nous étions qui sera présenté devant le trône, car aux yeux de Dieu, celui-là n'existe plus. Dans les papiers de Dieu, cette personne que nous étions avant notre conversion a été rayée. Il n'en est plus fait mention car elle est morte quand nous avons accepté le sacrifice de Christ sur cette croix. Lorsqu'une personne reçoit la grâce présidentielle, à sa sortie de prison, il n'y a pas les policiers qui viennent lui dire « Attends, t'as pas purgé ta peine, là ?» Non, il est gracié. À plus forte raison, nous qui vivons la grâce de Dieu, nous pouvons vous dire que nous n'avons plus apporté cela. Ça n'est plus le même homme. Nous sommes dans une vie nouvelle. Et cette vie doit refléter un changement. Paul dit par la suite que nous avons été ensevelis avec Christ. La coupure est nette. Il n'y a plus de retour en arrière. Cette vieille nature est définitivement vaincue. L'ensevelissement évoque l'enterrement, le deuil. Avons-nous réellement fait le deuil de celui que nous étions ? N'avons-nous jamais eu cette réflexion ? Là, si j'étais pas chrétien, alors... Ou alors, ouais, mais quand j'étais pas chrétien, je pouvais faire ça ou ça. Pour saisir pleinement le projet de Dieu pour nous, son projet d'une vie qui l'honore, nous avons besoin de faire le deuil de cette vie passée. Nous avons besoin de réaliser que notre vie chrétienne n'est pas une vie de privation à laquelle nous devons nous soumettre parce que c'est comme ça qu'on va devenir un bon chrétien qui sera sanctifié. Notre vie n'est pas censée être triste ou morose. Nous avons le privilège et la grâce de pouvoir enfin vivre en communion avec notre Créateur. Nous pouvons enfin vivre en étant réconciliés avec Dieu. Quelle joie ! Quelle joie de pouvoir enfin vivre réconciliés avec notre Créateur. Dieu marche avec nous. Est-ce qu'on en a conscience ? Dieu marche avec nous chaque jour, chaque seconde. Jésus est notre exemple suprême. Il a vécu des moments difficiles, mais il avait la joie, toujours, de cette communion parfaite avec Dieu. Aspirons à cela. Acceptons que notre ancienne vie nous privait de ce privilège. Faisons notre deuil de cette vie ancienne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Paul continue en disant, nous sommes ressuscités avec lui, alors nous sommes une nouvelle créature. Et cela change tout. Notre vie a changé. Nous sommes entrés dans une vie nouvelle. Et cette vie a une particularité forte. Elle n'est plus soumise au péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. La particularité de ce point est capitale pour notre façon d'appréhender notre vie. Nous ne sommes pas obligés de pécher. Nous pouvons dire non au péché. Et c'est logique quand on y réfléchit. Pourquoi la parole nous exhorterait-elle à lutter contre le péché si le péché était une fatalité ? Le péché n'a plus d'emprise sur nous. Ça ne veut pas dire qu'on pêche plus. Ça ne veut pas dire que le péché ne peut pas parfois conserver un attrait. Mais il n'est plus une fatalité. Et cela revêt deux aspects. Le premier, et comme nous l'avons déjà mentionné, le fait que nous ne sommes plus condamnés à cause de notre péché, car Christ a payé notre dette. Mais aussi que nous pouvons mener une vie qui honore Dieu. Dans tout ce passage, c'est à cela que Paul nous appelle. Si nous saisissons vraiment la portée de notre salut, la portée du sacrifice de Christ pour nous, la portée de cette grâce que nous avons reçue, alors la réalité de cette nouvelle vie dans laquelle nous sommes entrés nous sautera au visage. Nous réalisons que le sacrifice de Jésus sur cette croix est bien plus qu'un simple billet pour la vie éternelle. Mais c'est aussi un appel à marcher dans une nouveauté de vie, sur cette terre, où nous avons les moyens, par l'aide de Dieu et par sa grâce, de dire non au péché. Oui, nous pouvons dire non au péché. L'un des plus grands mensonges de Satan est de nous faire croire que pécher maintenant, ça n'est pas grave. De toute façon, tu vas bien finir par tomber. On peut lutter contre le péché. Et lorsque nous tombons, alors retournons au siège de la grâce, à la croix, confessons notre péché et continuons de marcher avec Christ. Pour lutter, j'essaye parfois de me dire qu'une année ne fait pas 365 jours. J'essaye de me dire qu'elle fait 365 fois un jour. Vivons un jour après l'autre. Chaque jour, retournons à la croix et demandons à Dieu de nous aider à vivre cette journée sans se préoccuper du lendemain. C'est cela qui peut faire une différence. En tout cas, ça en fait une pour moi. Et notre communion à Christ nous aidera à vivre cela. Notre union à lui nous permettra une plus juste compréhension de sa grâce pour nous. Vivre en profitant de la grâce et en ne luttant pas contre le péché par la force que Dieu donne, révèle en nous un amour du monde et des choses du monde. Si Dieu nous a arrachés des ténèbres, pourquoi persistons-nous à y retourner? La vie dans la lumière ne vaut-elle pas mieux que la vie dans les ténèbres? Dieu nous appelle à vivre une vie nouvelle, car il a payé le prix de son Fils pour ça. Si nous acceptons ce sacrifice, alors notre choix doit être entier. Dieu ne veut pas partager notre vie avec ceux qu'il a vaincus à la croix. Nous ressemblons parfois à un enfant que son père pardonne et qui retourne sans remords, recommencer la bêtise pour laquelle il vient d'être pardonné. Cette vision des choses est insensée et révèle en nous une mauvaise compréhension de ce pardon. Notre vie révèle la valeur que nous accordons au sacrifice de Jésus-Christ et à la grâce qu'il nous a faite. La grâce nous transforme et nous sommes appelés à vivre une vie en accord avec cette transformation. Un arbre aura beau prétendre qu'il est un pommier. On dira que c'est un pommier le jour où il produira des pommes. Il n'en produit pas forcément toute saison, mais il en produit toujours à un moment ou à un autre. N'oublions jamais, frères et sœurs, que ce changement est impossible par nous-mêmes, car c'est Dieu qui opère la transformation. Nous sommes le potier, nous dit la parole. Il est le potier, nous sommes l'argile. Et nous devons accepter de venir sur le tour du potier pour nous laisser façonner. Parfois ça fait mal, parfois il enlève des choses, mais c'est pour notre bien, pour que nous puissions le servir et que nous puissions vraiment vivre ce changement qui commence à la conversion et qui se poursuit notre vie durant. Nous devons nous laisser transformer par lui, être attentifs à ses enseignements car nous sommes vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes désormais vivants. Notre vie a pour objectif de glorifier Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que cette vie est en Jésus-Christ. Dès le début de notre nouvelle vie, nous avons l'assistance du Saint-Esprit. Et par notre union à Christ, nous avons la possibilité de vivre pleinement cette nouvelle vie. Pourquoi nous complairions-nous dans le péché? Nous sommes vivants, et le péché conduit à la mort. Mais nous sommes vivants. N'est-ce pas merveilleux? Nous sommes vivants, vivants pour Dieu. Jésus a dit « Je suis la vie ». Et la grâce qu'il nous fait, c'est de bénéficier de cette vie en abondance, nous dit Jean chapitre 10, verset 10. Paul dit que nos membres ne doivent pas être des instruments de l'injustice, mais des instruments de justice. Avec une hache, on peut construire ou on peut détruire. Il en est de même pour nous. Par nos actions et notre attitude, nous pouvons servir de nombreuses causes, bonnes ou mauvaises. Chaque partie de notre corps peut servir à honorer Dieu et à le glorifier, ou à le déshonorer. Si nous sommes vivants pour Dieu en Jésus-Christ, qu'allons-nous choisir? Le péché n'a plus de pouvoir sur nous, car nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Ça paraît fou, mais c'est le texte biblique. La loi avait cela de particulier qu'elle mettait en évidence le péché dans la vie de l'homme. Elle pointait ce qui n'allait pas, mais sans y apporter de solution définitive. Elle agissait un peu comme un diagnostic, mais sans donner le remède qui permet un plein rétablissement. La loi nous montre que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et c'est ce que nous rappelle Jean chapitre 15, verset 5. Je vais demander à Sarah si tu veux bien le lire. Jean chapitre 15, verset 5. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et comme nous le dit aussi Matthieu chapitre 5, verset 17, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Nous ne sommes donc plus sous le jugement de la loi. Nous sommes sous la grâce, parce que Christ, lui, a réussi à accomplir la loi parfaitement, en tant que nouvel Adam, pour pouvoir nous imputer sa justice. Allons-nous pécher, puisque nous ne sommes plus sous la loi ? Loin de là, répond Paul. La loi est bonne. Paul le rappelle en Romains chapitre 7, verset 16. La loi a été donnée par Dieu. Jésus lui-même enseigne qu'il faut respecter les 10 commandements. Mais il peut y avoir une mauvaise compréhension de notre changement de régime, sous la loi, sous la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et la loi était impossible à respecter par nous-mêmes. Car lorsque nous vivions sous la loi du péché, le péché régnait en maître sur nous. Si nous ne pouvions pas respecter la loi, alors nous ne pouvions pas non plus être déclarés justes et obtenir le salut. Mais Jésus est mort pour nous. Et par notre union à lui, alors nous avons enfin le moyen d'être déclarés justes devant Dieu. Et cela ne vient pas de nos efforts à nous pour respecter la loi. Non, cela vient de la grâce qui nous a été faite. C'est pour cela que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous encourage à lire Romains chapitre 8, verset 3. « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. » Je trouve que cette phrase de Brad Dixon, que nous connaissons bien, explique qu'on ne peut plus clairement cette idée-là. Je vous le cite, « On peut dire que la loi est bonne, mais que l'être humain non régénéré n'est jamais gagnant face à elle, car il se trouve prisonnier d'une autre loi, celle du péché, qui l'empêche d'obéir à ce qu'il sait être bien. Le chrétien est délivré de cette combinaison perdante par un nouvel élément introduit dans la formule, la grâce, son union avec le Christ. » Mais si Paul, et a fortiori Jésus, déclare que la loi est bonne, alors nous ne devons pas agir à l'encontre de cette loi. Et nous allons obéir à cette loi non pas parce qu'elle nous sauve, mais parce que nous sommes sous la grâce. Nous allons y obéir car nous sommes déjà sauvés. Et nous touchons là la différence entre le légalisme et la sanctification. Le légalisme demande notre obéissance pour accéder au salut. La sanctification nous appelle à l'obéissance, car nous avons déjà obtenu le salut en Jésus-Christ. Paul nous rappelle que c'est l'obéissance qui conduit à la justice. Là encore, Paul nous rappelle que nous avions pour maître le péché, mais que dans notre nouvelle vie, nous avons changé de maître. Dieu est notre maître, et c'est un choix que nous avons fait. Il n'est plus nécessaire d'avoir cette idée du bâton et de la carotte, comme le pensaient les judaïsants dont nous avons parlé au début de notre message. Et une fois libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Chapitre 6, verset 18. Nous ne pouvons donc pas laisser le péché régner sur nous en prétendant que ça n'est pas grave, car nous sommes désormais esclaves de la justice. La neutralité n'est pas une option. On ne peut pas agir comme une personne qui, en temps de guerre, se boucherait les oreilles pendant les bombardements en se disant que tout ça n'existe pas et que ça n'arrive pas vraiment. Le chrétien n'est pas celui qui ne pêche plus. C'est celui qui n'est plus esclave du péché car il appartient à Dieu. Pour finir, Paul nous appelle à mener une vie sainte, une vie qui est en accord avec la grâce et à cette vie nouvelle qui nous a été offerte. Mais nous ne sommes pas seuls dans la bataille, car Christ a déjà triomphé du péché à la croix. Et par notre union à lui, nous avons enfin la possibilité de lutter, car nous ne sommes plus esclaves du péché. Christ est notre roi. La justice est notre étendard. Et nous connaissons déjà l'issue de la bataille. Si on résume tout ça, et j'aimerais vraiment que vous partiez avec ces idées-là. La grâce de Dieu nous libère de la mort et du péché. Nous ne sommes donc plus esclaves du péché. Nous sommes appelés à y résister et à nous laisser transformer par Dieu. Il n'y a aucune raison de laisser le péché s'étendre dans nos vies, car c'est Dieu lui-même qui nous donne la force de lutter. Par nos vies, nous pouvons glorifier Dieu. Vraiment, mes frères et sœurs, ne perdons pas de temps ce matin et consacrons nos vies à glorifier Dieu pour laisser Christ briller à travers nous. Merci de votre attention.